Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est la conclusion de la parabole que le Seigneur livre, il nous livre aujourd'hui. Et juste avant, il avait dit une autre parabole qui finissait par « Il y a des premiers qui seront derniers et des derniers qui seront premiers ». En quelque sorte, il insiste, il enfonce le clou. Il nous faut nous enfoncer un petit peu dans le sens de cette parabole qui n'est pas si obvie qu'il y paraît. Tout d'abord, il faut bien placer la question, il s'agit du royaume des cieux, il ne s'agit pas d'un manuel de doctrine sociale, ni même d'un manuel pour employeur qui déciderait une nouvelle grille de salaire. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit du royaume des cieux. Je vous propose malgré tout de filer la métaphore que le Seigneur emploie lui-même dans sa parabole. Il y a d'abord une embauche, ensuite un salaire. Tout d'abord, il y a une embauche. La bonne nouvelle, la première bonne nouvelle de cette parabole, c'est que le Seigneur va lui-même à la rencontre de ses ouvriers. Ce n'est pas comme ça que cela se passe dans la vie courante, ce sont les ouvriers qui courent à la recherche du travail. Eh bien, quoique parfois il y ait aussi des chasseurs de tête, mais en tout cas ici, c'est le Seigneur qui s'inquiète de nous, qui s'inquiète de sa vigne et qui s'inquiète de notre propre travail à sa vigne. Alors, pourquoi vient-il plusieurs fois ? Tous les pères de l'Église, ou pratiquement en tout cas tous ceux qui ont commenté ce passage, y ont vu le cours des temps. Il y a à la fois le cours des temps de l'histoire et à la fois le temps de notre vie. Le cours des temps de l'histoire, eh bien, si l'on suit saint Grégoire de Nazianze, c'est que quand le Seigneur sort au point du jour, c'est-à-dire à la première heure, à l'office de prime, eh bien, c'est 6 heures du matin, et c'est Adam qu'il envoie à sa vigne travailler, comme il est dit dans le livre de la Genèse, il le mit dans le jardin afin qu'il le travaillât. Quand le Seigneur sort à la troisième heure, c'est-à-dire à 9 heures du matin, c'est l'alliance avec Noé. Quand le Seigneur sort à la sixième heure, c'est-à-dire à midi, eh bien, c'est l'alliance avec Abraham. Quand le Seigneur sort à la neuvième heure, c'est-à-dire à 15 heures, à l'office de sexte, eh bien, c'est l'alliance avec Moïse, de nonne, pardon, tierce sexe nonne, c'est pas facile, je me confonds toujours. Et puis, enfin, quand le Seigneur sort à la onzième heure, eh bien, c'est-à-dire à 17 heures le soir, c'est le Christ lui-même qui vient et qui convoque tous les ouvriers qui restent. Voyez-vous, c'est le plan de Dieu qui se déroule dans l'histoire que cette pédagogie progressive de l'Alliance qui mène vers le Christ, c'est-à-dire tous les hommes. Le Seigneur, de toute éternité, avait prévu notre salut, mais nous avions péché. Aussi, petit à petit, s'est-il lui-même rapproché de nous. D'abord dans la création, dans Adam, puis dans Noé, puis dans son peuple qu'il a voulu forger pour porter la promesse de la venue du Messie jusqu'à sa venue. Le plan de Dieu est immuable, le Seigneur ne change pas d'avis, il avait voulu notre salut, il met en œuvre les moyens nécessaires à notre rencontre. C'est une bonne nouvelle que le Seigneur soit sorti plusieurs fois. C'est son plan divin pédagogique de salut pour venir jusqu'à nous et se faire comprendre de nous afin que nous puissions nous le comprendre, c'est-à-dire le prendre en nous, le recevoir. C'est la sanctification du temps, bien entendu, que nous voyons ici développer, car pour nous, les temps ne sont pas anodins. Les temps qui sont les derniers, c'est-à-dire nous sommes à la fin des temps, vous le savez, hein, depuis la venue du Christ, si l'on devait dessiner les temps selon le salut, il y aurait la création, puis la chute, puis le progressif relèvement des prophètes de la loi jusqu'au Christ notre Seigneur qui est le sommet de l'histoire. Et depuis, nous vivons de ce sommet qui se déploie dans notre temps, mais tout nous est donné. Le Christ est venu et nous sommes sauvés. Les temps qui nous restent, ces derniers temps, sont les temps de notre salut. C'est le temps qui nous est donné pour nous convertir, pour compléter en nous ce qui manque aux souffrances du Christ. c'est-à-dire pour y aller nous-mêmes. Oui, les temps que nous avons sont précieux, les insensés disent que le temps c'est de l'argent, ils sont vraiment sans intelligence, le temps c'est de la gloire. Le temps, il est bien plus précieux qu'un peu d'argent, il a toute la valeur du temps divin qui nous est donné maintenant pour nous convertir. Vous le savez, nous sommes entrés dans la septuagésime, dans la forme extraordinaire du rite. On prend le soin pendant 3 semaines de méditer notre déréliction, notre péché, notre petitesse, avant de commencer le carême. Et oui, il est sage de voir de quoi nous sommes pétris, quelle est notre faiblesse, pour savoir quel effort mettre en route pour arriver à mériter le salut, c'est-à-dire à arriver à la hauteur de la volonté du Christ. Bref, ce temps se déroule bien sûr dans l'histoire, mais aussi dans notre vie. Il y a un appel, et cet appel, vous l'avez reçu au jour de votre baptême. Le Christ est sorti à votre rencontre. Normalement, si le temps le permet, c'est dans l'atrium, ou en tout cas sur le parvis, que le prêtre est sorti pour venir vous chercher et venir vous amener par appel de divin à l'intérieur de l'Église. C'est là que vous avez été appelé par le Christ, peut-être quelques jours après votre naissance, peut-être plus tard, peut-être très tard. N'oubliez pas, vous-même, de vous faire le porte-voix du Christ pour inviter, y compris jusqu'à la 11e heure, ceux d'entre vos frères qui ne sont pas baptisés, ceux qui pourraient désirer ardemment retourner au Christ maintenant. Nous allons d'appel en appel, vous avez été appelés, mais peut-être, parfois, ne sommes-nous pas, et c'est moi qui invente une nouvelle catégorie dans l'Évangile, mais ce n'est pas interdit, peut-être que ceux qui ont été appelés ont pu arrêter de travailler. Ce n'est pas parce qu'ils ont été appelés, comme nous avons été appelés à notre baptême, que toujours nous sommes à la vigne du Seigneur. Parfois, le Seigneur a besoin de revenir et de nous appeler de nouveau et de dire, comme il le dit ici dans l'Évangile, « Pourquoi êtes-vous oisifs ? Pourquoi n'êtes-vous pas au travail ? Peut-être y étiez-vous et vous n'y êtes plus. Alors, revenez. » Il y a l'appel, et cet appel est sans cesse renouvelé dans notre vie, sans cesse régénéré. Nous pouvons sans cesse retourner vers le Christ. Entendez l'appel du Christ. Entendez l'appel dans l'appel, comme le disait Mère Teresa, c'est-à-dire ce n'est pas forcément à chaque fois un appel du mal au bien, ça peut être d'un appel d'un bien à un plus grand bien. Mère Teresa avait entendu l'appel de Dieu à consacrer toute sa vie, elle était devenue religieuse enseignante en Inde, et c'est à l'intérieur de cet appel qu'elle reçut un second appel, de nouveau, où le Christ lui demanda, alors que tout semblait jouer dans sa vie, de recommencer, de revenir à lui autrement, avec une nouvelle mission. Bref, cet appel va se dérouler tout au long de notre vie et nous devons nous y préparer. Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, commence exactement comme la Septuagésime, nous faire méditer notre péché, puis nous amener à une contrition la plus parfaite possible, pour seulement après entendre l'appel du Christ. Cet appel, bien entendu, vous l'entendrez autant que vos yeux se dessilleront de l'orgueil immense qui est habituellement le nôtre, c'est-à-dire la considération désordonnée de moi-même. Alors voilà pour ce qui est de l'embauche. Voyons maintenant ce qu'il en est du salaire. Il y a 2 choses fondamentales, 2 vertus fondamentales et une 3e qui me semble cachée. C'est la vertu de justice et la vertu de charité. Et la vertu d'espérance me semble cachée, je vais vous dire où. Tout d'abord, il y a la vertu de justice. Bien sûr, nous sommes immédiatement choqués par le fait, nous aussi normalement, et cette parabole est faite pour ça, elle est faite pour nous choquer, c'est-à-dire que ceux qui ont travaillé tout le jour, c'est un raisonnement de bon sens, qui ont peiné, eh bien, reçoivent finalement le même salaire que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. c'est injuste. C'est injuste que nous, les chrétiens, nous recevions tout le Christ alors que les Juifs, depuis des siècles, portent la loi, portent les exigences du sabbat, les 612 mitzvot, les 612 règles de la loi mosaïque, qui sont un fardeau pesant sur les épaules de ceux qui veulent bien l'accepter, les accepter. Eh bien oui, c'est injuste, nous venons en dernier, nous venons comme ces ouvriers de la 11e heure, et pourtant, nous allons recevoir le salaire tout entier qui est Dieu lui-même. Car ce denier, évidemment, je ne peux m'empêcher de penser que c'est le denier qui nous permet de passer le Styx, pour reprendre une image, une allégorie qui n'est pas biblique, mais nos anciens n'avaient pas peur de reprendre, y compris la mythologie, car tout est nôtre. Et oui, il va nous falloir un denier pour passer de ce monde à l'autre, il va nous falloir un ticket d'entrée, il va nous falloir une grâce spéciale, et cette grâce, elle sera la même pour tout le monde, passera ou passera pas. Eh bien, ce denier pour moi, mes bien chers frères, représente ce bien qui nous est donné d'entrer dans la vie éternelle. Et que voulez-vous ? Que vous ayez travaillé un peu ou beaucoup, si vous êtes l'objet de l'amour du Christ, eh bien, vous entrerez dans le paradis et il n'y aura pas, à ce moment-là, un petit paradis ou un grand paradis, ce qui ne veut pas dire que nous aurons tous la même place. L'égalitarisme que le Seigneur rejette ici, il le rejette tout le temps, c'est-à-dire que sa justice est de rendre à chacun selon son dû. C'est une vieille définition de la justice, retribuer sum quae retribuere, donner à chacun selon son dû, c'est-à-dire qu'il ne nous est pas dû à chacun la même chose. Vous le savez bien, vous qui avez des enfants, eh bien, il est fréquent que les aînés estiment très fréquemment n'être pas traités avec la même mansuétude, avec la même bonté que les puînés, car ils ont toujours l'impression d'avoir été traités durement, rudement, selon un contrat prédéterminé, et que ceux qui viennent touchent en plus, en quelque sorte. Et oui, c'est de la nature de l'homme de penser que parce qu'il a fait quelque chose, il a droit à un salaire plus grand. Nous n'avons pas droit, mes bien chers frères, au paradis. Nous n'avons droit qu'à l'enfer. Nos âmes ne nous permettent pas de sauter jusqu'au ciel. C'est la grâce de Dieu qui nous donne de le voir. C'est la grâce de Dieu qui nous donne d'arriver jusqu'à lui. Eh bien, à quelque moment que vous vous tourniez vers lui, à quelque instant que vous vouliez vraiment changer de vie, le Seigneur est là pour vous présenter le denier de cette journée et vous accueillir en lui. Alors, il y a bien sûr la question de la charité. J'entremêle l'espérance. Il me semble que les ouvriers qui sont embauchés à la 3e et à la 6e heure, le salaire n'a pas été fixé, contrairement aux premiers. Les premiers, le salaire leur a été fixé, leur a dit « pour une journée de salaire, vous toucherez un denier ». Les suivants, il est dit « vous toucherez un juste salaire ». C'est-à-dire que, en plus du travail, ils ont eu l'espérance. Ils ont eu l'espérance dans le Seigneur qu'il les traiterait justement. Il y a une vertu théologale en plus. Espérer, c'est désirer ce que l'on ne possède pas, ce que l'on peut voir uniquement par la foi. Mais pour en finir, pour venir plutôt par un bouquet final, nous voici arrivés à la charité et il n'est pas facile de la comprendre. La charité n'est pas d'abord raisonnable. La charité, c'est l'amour brûlant du Christ qui se donne. À celui qui récrimine et qui murmure, le Seigneur va dire « Mais je ne t'ai pas fait d'injustice ». Effectivement, la charité doit d'abord remplir la justice. Nous l'avons parfois oublié. Vous savez, c'est parfois une personne que l'on embauche. Alors on l'embauche par miséricorde. Donc comme on l'embauche par miséricorde, parce que personne ne lui donne de travail, alors on ne la paye pas ce qui est juste. On lui paye en dessous de ce qui est juste, parce que c'est déjà une miséricorde, c'est déjà une charité. Eh bien, c'est une erreur. La justice doit toujours et d'abord être remplie. Et c'est ce que fait ici le Seigneur, il donne ce qui est juste, il avait prévu un denier, ils recevront un denier. Il ne fait tort à personne. Mais voilà, le Seigneur veut aller plus loin, il veut passer la justice et maintenant accéder à la charité. À ceux qui lui ont fait confiance, à ceux qui se sont livrés à son travail, sans savoir le salaire qu'ils recevraient, le Seigneur, par charité, va donner plus. Oui, la charité vient parfaire la justice. D'ailleurs, dit saint Thomas d'Aquin, la charité est la forme de toutes les vertus, la charité parfait toutes les vertus. Si vous entrez dans la logique de la charité, alors il n'y a plus de limite à votre bonté. Car la bonté et la mesure de cet amour, c'est d'aimer sans mesure. Ce qui ne veut pas dire que l'on donnera à tort et à travers, ce qui ne veut pas dire que nous allons abandonner notre raison. Un père de famille qui, pour donner par charité, donnerait la maison, la voiture, et puis irait voir ses enfants en disant « Mes bons enfants, par charité, j'ai tout donné, nous allons vivre sous les ponts », celui-là commettrait un grave péché, car il manquerait gravement à la justice qu'il a contractée envers ses enfants, la dette de devoir les éduquer, les vêtir et les nourrir. J'ai presque fini, madame. Et donc, nous y voyons... Je suis sensible. Et donc, cette charité, eh bien, c'est de pouvoir entrer dans le don que Dieu nous fait, dans ce don que nous désirons pour tous. Quand nous aimons de charité, c'est un critère. Nous n'aimons pas les autres pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils nous apportent, mais pour leur propre bien. Si vous arrivez à aimer à cette hauteur-là, alors vous allez vraiment entrer dans la charité de Dieu, et donc vous allez vraiment aimer vos frères et vos semblables, vous allez pouvoir espérer que tous soient sauvés. Ainsi soit-il.